Bonjour à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, on examine le plan d'action de l'Europe pour relancer l'économie.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est une proposition choc qui augure de longues nuits de négociations. La Commission européenne a mis sur la table un plan de relance de 750 milliards d'euros pour aider les pays membres à se remettre sur pied au lendemain de la crise sanitaire. Après des semaines de tergiversations, les 27 pourraient finalement accepter un endettement commun. Les discussions entre partisans et adversaires d'une plus grande solidarité budgétaire se tiendront lors du sommet européen des 18 et 19 juin prochains. Un moment historique pour l'Union européenne, c'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure, comme chaque jour, d'Entendez-vous l'écho. Nous entrons dans la danse des négociations européennes en compagnie de nos deux invités. Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheuse au CNRS à Paris-Dauphine. Et bonjour Laurent Varlouzet.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à Sorbonne Université et spécialiste de l'Europe. Un grand merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui.
Pour l'Europe, les mesures les plus audacieuses seront toujours les plus sûres.
C'est le moment de l'Europe. Et c'est pourquoi la Commission propose aujourd'hui un nouveau plan de relance appelé Next Generation UE d'un montant de 750 milliards d'euros. Laissez-moi être très clair. Ces subventions sont un investissement commun dans notre avenir. Cela n'a rien à voir avec l'endettement des États membres dans le passé.
Moi, je crois qu'il faut absolument aider les pays qui ont été le plus gravement touchés, ne serait-ce que parce que ce sont des marchés très importants. Que serait l'industrie automobile allemande si l'Italie et l'Espagne s'effondrent et la France va très mal? Ce sont des marchés qui sont utiles pour les industries de tous les pays.
Nous sommes convaincus que cet effort est nécessaire et conduira à une meilleure garantie de la cohésion européenne, plus que ce n'est le cas actuellement.
On vient d'entendre dans l'ordre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Parlement européen, David Sassoli, et la chancelière allemande, Angela Merkel. En quoi le plan de relance proposé par la Commission est-il particulièrement ambitieux, Anne-Laure Delatte ?
Alors, moins par son montant que vraiment par sa philosophie, par les principes très nouveaux qu'il met en avant, qui sont, pour le dire très simplement, le principe d'une dette commune et le principe de transfert budgétaire. Donc en fait, pour le dire autrement, on s'équipe d'un embryon de politique budgétaire. Le montant n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, il est très intéressant et il va porter le budget européen à 2% du PIB plutôt que 1,15. Donc ça n'est pas anecdotique, mais ça n'est pas complètement révolutionnaire non plus. Vraiment, ce qui tient de la radicalité quasiment de ce plan, c'est que on passe d'un budget qui pour l'instant reposait sur des contributions communes, c'est-à-dire que quand vous êtes européen, on ne fonctionne pas du tout comme une fédération, comme en Allemagne ou comme aux États-Unis. On ne lève pas des impôts communs en fait en Europe. On dit, on met un pot commun et on met de l'argent dedans qui est issu de nos budgets nationaux. Et là, pour la première fois, en réalité, la Commission, mais avant la Commission, c'est la proposition franco-allemande de Angela Merkel et Emmanuel Macron, qui dit, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'endetter ensemble, donc on va émettre des titres communs sur le marché. Et cet argent-là, on va faire quelque chose de très différent d'habitude. Au lieu de vous le prêter, on va vous le transférer. On va vous faire des subventions. Donc voilà, les deux éléments quasi révolutionnaires, en tout cas très nouveaux dans la philosophie du budget européen, c'est émission de dette commune et transfert plutôt que prêt.
Vous partagez ce point de vue, Laurent Varlouzet, un plan qui est ambitieux par son ampleur, mais plus encore par sa philosophie ?
Oui, tout à fait. Et puis surtout si on compare avec la dernière crise économique et financière, la crise de 2007-2008, qui ensuite s'est traduite par la crise de l'euro, où là les réactions étaient quand même, à l'époque, étaient relativement tardives. Bon, là la Commission a suspendu les règles du pacte budgétaire, a assoupli les règles d'aide d'État. Il y a eu aussi une initiative de la BCE assez rapidement. Bon, maintenant, on a cette initiative franco-allemande prolongée par le plan de la Commission qui vient après, c'est vrai, des semaines de débats très difficiles. Donc oui, c'est pas forcément une révolution, mais on sent bien que le délai de réaction, en tout cas, est beaucoup plus rapide que lors de la dernière crise économique majeure.
Vous le disiez, Anne Lordelatte, la proposition franco-allemande a été un moteur dans l'élaboration du plan de la Commission, mais c'était seulement, entre guillemets, 500 milliards d'euros qui étaient proposés par la France et l'Allemagne. Dans le cas de la Commission, on est à 750 milliards d'euros. Il y avait une volonté de la Commission d'aller plus loin?
Oui, alors... D'abord, ce qui est intéressant pour revenir sur ce que vient de dire Laurent Varlouzet, c'est que le délai de réaction, il est d'autant plus intéressant que effectivement, il a vraiment sauvé la zone euro par rapport à la dernière crise. Donc, on a une BCE qui est extrêmement réactive et on a des défauts de coordination entre les États et notamment en Allemagne au début, c'est-à-dire qu'on a vraiment une partition de l'Europe entre les pays du Nord et les pays du Sud au tout début. Donc, on craint énormément un scénario semblable à 2010-2012. Et en fait, il y a un basculement, vraiment, avec cette proposition franco-allemande. Et le basculement, c'est que Angela Merkel passe du côté de la France. En fait, elle était plutôt du côté des frugaux jusque-là, une frugale plutôt modérée, mais elle disait jusqu'ici, je veux bien qu'on réagisse, mais on ne réagit que par des prêts. Donc, on va éventuellement émettre des dettes ensemble, ou en tout cas, on va s'arranger pour financer quelque chose, mais on vous les prêtera, on ne vous les transférera pas. Et ce qui se passe, c'est que le 5 mai 2020, donc vraiment en pleine crise, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe dit, en fait, ce qu'a mis en place la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne nous paraît pas conforme à la Constitution allemande. Et alors, vraiment, c'est un choc pour les marchés et pour les gens qui observent l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que de façon... assez finalement ironique, ça va constituer un moment de basculement pour l'Europe parce que Angela Merkel comprend à ce moment-là que si on ne met pas en place un vrai outil budgétaire en face du monétaire, en fait, le projet européen peut basculer avec des questions de constitutionnalité comme la Cour de Karlsruhe vient de menacer.
C'est la décision de justice de Karlsruhe, pour vous aussi, Laurent Varlouzet, qui explique en partie cette volte-face allemande?
C'est possible. Après, ce sera aux historiens du futur de déterminer le cheminement du processus de décision. Mais effectivement, ça comme le dit Anne-Laure Delatte, le jugement de Karlsruhe montre les limites d'une action qui repose exclusivement sur la BCE. C'est un petit peu comme ça que la dernière crise s'est résolue. Il y a eu évidemment des décisions importantes des États, mais c'est vrai qu'on a compté beaucoup sur la BCE, sur Mario Draghi, sur le whatever it takes, sur toute une panoplie de nouveaux outils déployés par la BCE et par d'ailleurs d'autres banques centrales dans le monde. Panoplie qui, justement, est critiquée par la Cour de Karlsruhe, qui, disons, ne remet pas en cause ce qu'a fait la BCE frontalement, mais demande plus de précision à la BCE. Donc on voit bien que ça réduit considérablement sa marge de manœuvre potentielle, et puis ça peut créer effectivement une crise juridique, constitutionnelle, politique, même si, bon, paradoxalement, les autorités allemandes, si elles se positionnent pas officiellement, elles sont plutôt... en porte-à-faux par rapport à cette décision. Et donc cette décision, effectivement, ça montre les limites d'une action circonscrite à la seule BCE. Les États doivent, au bout d'un moment, prendre leurs responsabilités.
Ce plan de sauvetage proposé par la Commission européenne semble particulièrement essentiel pour les pays du sud de l'Europe, comme vous le disiez, à l'heure de l'âte. L'Espagne et l'Italie en particulier ont subi la crise de plein fouet. Écoutez ces témoignages recueillis à Barcelone et à Norcia, dans le centre de l'Italie.
Les personnes qui viennent demander de la nourriture aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'avant. Nous avons maintenant beaucoup plus de familles qui vivent dans un appartement ou une chambre sans bail, des gens qui n'ont pas de papier. Après un mois de confinement, ils ne s'en sortent plus avec leur économie de survie.
Ces bons sont vraiment utiles, surtout avec mes 4 enfants. On espère que tout ça va vite s'arrêter. C'est pas la guerre, mais ça y fait penser quand les gens utilisaient des tickets de rationnement.
Nous voulons lancer un message de solidarité. Comme dit la pancarte, ceux qui peuvent donnent et ceux qui ne peuvent plus se servent. On est tous sur le même bateau.
On est tous sur le même bateau. L'Espagne et l'Italie, qui ont durement souffert de la crise sanitaire et économique, seraient les premiers à bénéficier de ce plan de sauvetage européen, Anne-Laure Delatte?
Oui, en effet, hein, c'est vraiment l'objectif, effectivement, parce que ces pays ont en fait subi une double peine, et c'est assez terrible dans le sens où vous avez un choc sanitaire qui les touche de façon plus importante, pour des raisons probablement démographiques et aussi d'un déficit de dépenses de santé dans les 10 dernières années. Ça, on le voit, hein, vous avez moins de lits par habitant dans les pays du Sud, notamment parce que les dépenses de santé ont tout simplement baissé en fait depuis 2008. Donc vous êtes moins apte à subir ce choc. Après, il y a probablement aussi des questions démographiques ou de densité de population, etc. Ça, c'est aux démographes de le dire. Et donc, vous avez des pays qui subissent le choc sanitaire de façon beaucoup plus douloureuse avec, si vous regardez le nombre de morts par 100 000 habitants, c'est absolument terrible, hein, l'Espagne, l'Italie. Et à côté de ça, la double peine, c'est que ces pays rentrent avec un niveau de dette sur PIB, ou en tout cas une marge fiscale très réduite. Alors, c'est particulièrement le cas pour l'Italie qui rentre dans la crise avec une dette qui pèse déjà 130% du PIB. L'Espagne est beaucoup moins, enfin, a une dette moins importante. Mais ce que vous voyez, si vous regardez la situation de l'Europe, c'est que vous avez une énorme hétérogénéité dans la façon de répondre à la crise. Et en réalité, quand l'Allemagne est capable de dépenser 7% de son PIB en stimulus fiscal, vous voyez, en dépenses publiques pour le chômage, pour la pauvreté, etc., l'Espagne, elle dépense 1%, et l'Italie, à peine 1% aussi de son PIB. Vous voyez, donc, en fait, il rentre avec des capacités restreintes de faire face à ce choc, d'un point de vue sanitaire, parce qu'on a moins de lits, mais aussi parce qu'on a moins d'argent à dépenser. Et donc, si vous êtes dans une zone monétaire et que vous pensez qu'il y a des transferts importants pour que ça tienne, pour que tout cela tienne, en réalité, là, ça se justifie complètement. Oui, en effet, ce plan, il devrait bénéficier de façon beaucoup plus importante à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal et aux pays les plus touchés par le Covid. Et ça se justifie par des raisons sanitaires et des raisons macroéconomiques et fiscales.
Et par-dessus le marché, ces pays-là suscitent de plus en plus la méfiance des marchés et donc doivent emprunter à des taux plus importants.
Oui, alors voilà, on en arrive peut-être à la triple peine, c'est-à-dire que la conséquence de tout ça, c'est que les investisseurs, ceux qui détiennent la dette de tous ces pays, c'est-à-dire vous et moi, hein, si vous avez de l'assurance vie, si vous avez un peu d'épargne, vous avez probablement des titres français, italiens, espagnols, allemands. Eh bien, en réalité, les marchés fonctionnent de façon assez rationnelle à ce moment-là et se disent « Ouh là là, je suis en train de prêter à un pays qui va finalement avoir une moindre capacité à me rembourser parce qu'il va être touché de plein fouet par cette crise, parce qu'il est en train de mettre des mesures d'isolement très fortes, parce que, en fait, la contrepartie de ne pas avoir assez de lits, c'est qu'il fallait fermer toutes les écoles, etc. Donc, vous voyez l'Italie par rapport à l'Allemagne. Et donc, les investisseurs prennent peur, et au tout début, à partir de mars, on voit les spreads, donc l'écart de taux d'emprunt entre, par exemple, l'Italie et l'Allemagne, d'accord ? Donc, la différence à laquelle emprunte l'Italie par rapport à l'Allemagne, on voit ça s'écarter. On voit que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ont des taux d'emprunt qui commencent à diverger par rapport à la France et à l'Allemagne.
Laurent Varlouzet, sur cette triple peine des pays du Sud.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a l'impression d'une espèce de redite de la crise financière, l'Europe du Nord contre l'Europe du Sud. Pourtant, l'Allemagne a bougé. Et l'Allemagne a bougé parce qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas. Oui, l'Italie, l'Espagne ont des difficultés particulières, mais c'est pas lié aux fautes de leur gouvernement. Lors de la crise précédente, les pays créanciers éprouvaient des réticences à prêter aux pays les plus endettés pour une question d'aléa morale. L'idée, c'était d'éviter d'ouvrir le guichet pour ensuite susciter des comportements imprudents. Donc, c'était toujours l'exemple de la Grèce qui était citée, qui avait maquillé ses statistiques. Bon, bah là, il n'y a pas d'aléa morale, parce que si l'Italie, l'Espagne ont été fortement touchées, c'est pas lié à l'incurie de leur gouvernement, c'est lié au hasard. Alors, d'ailleurs, c'est la zone la plus riche d'Italie qui a été touchée, et a priori, en raison, d'ailleurs, de son insertion dans la mondialisation, puisque ce serait sans doute des liens avec des entreprises chinoises qui auraient amené l'épidémie en Italie du Nord. Donc il n'y a pas cette dimension-là.
Quant à la Grèce, elle est peu touchée par la crise sanitaire, mais extrêmement touchée par la crise économique.
Et j'allais y venir. Si vous regardez les statistiques, c'est même pas Europe du Nord contre Europe du Sud, c'est plutôt Est-Ouest, puisque l'Est est moins touché que l'Ouest. Et en Europe du Nord, vous avez des pays comme la Grande-Bretagne, mais aussi comme les Pays-Bas ou la Suède, qui sont beaucoup plus touchés que des pays d'Europe du Sud, comme la Grèce ou même le Portugal, avec des taux de mort par 100 000 ou par 1 million d'habitants largement inférieurs aux Pays-Bas et à la Suède. Donc les Pays-Bas, qui sont dans le bloc des pays qui sont les plus réticents à l'union de transfert, ne représentent absolument pas un modèle en termes de gestion de la crise sanitaire.
Quelle est aujourd'hui la vision de la souveraineté qui est défendue par Ursula von der Leyen et qui se dégage peut-être de ce plan de relance qui a été proposé par la Commission européenne, Laurent Varlouzet?
Alors je pense que vous avez eu raison de mentionner un petit extrait du discours d'Ursula von der Leyen, parce que c'est un personnage intéressant. Bon, elle, politiquement, elle est un petit peu dans la même lignée que Angela Merkel, donc c'est une chrétienne démocrate pro-européenne, assez modérée. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une européenne par sa biographie, c'est la fille d'Ernst Albrecht, qui était l'un des premiers hauts fonctionnaires allemands qui ont joué un rôle dans les débuts de la Commission européenne dans les années 60, d'abord dans la négociation du traité de Rome qui a créé la communauté européenne, puis un poste très très important au départ de la Commission européenne auprès d'un commissaire allemand et ensuite comme directeur général. Donc c'est quelqu'un qui a grandi à Bruxelles, qui a un parcours international et qui, je pense, c'est vraiment l'Europe chevillée au corps. Et qui donc prend cette crise en tant qu'Allemande, chrétien-démocrate, mais aussi en tant qu'Européenne, pas forcément fédéraliste, mais en tout cas quelqu'un qui est prêt à faire bouger les lignes pour relancer l'intégration européenne, ou en tout cas pour éviter que la zone euro ne se délite.
Et sa vision se rapproche peut-être de la vision française de l'Europe et de son marché ?
Je pense que c'est quelqu'un qui comprend les Français de par son parcours, hein, encore une fois, puisque quand vous êtes à Bruxelles, déjà, elle a dû apprendre le français. Son père était auprès du commissaire von der Grubben, qui a beaucoup débattu, disons, avec les commissaires français. Donc oui, je pense qu'elle connaît le fonctionnement de l'Europe et elle sait que, au bout du bout, les choses se font à partir d'un compromis franco-allemand, non pas un compromis entre deux États qui vont dans le même sens, mais entre deux États qui bien souvent ont des préférences divergentes, qui reflètent d'ailleurs les préférences d'autres pays européens. Et s'ils se mettent d'accord, ils ne peuvent pas imposer leur volonté aux autres, mais disons qu'ils peuvent tracer les voies d'un compromis entre Europe du Nord, Europe du Sud, aujourd'hui Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, tracer les voies d'un compromis qui pourrait être acceptable par l'ensemble des membres de l'Union européenne.
On l'a vu, le rapprochement franco-allemand a été déterminant dans ce plan de la Commission européenne. Et un autre rapprochement avait déjà eu lieu entre Paris et Berlin en février 2019. Au sujet des règles de la concurrence européenne, la Commission avait alors rejeté la fusion entre Alstom et Siemens. Écoutez la réaction de Bruno Le Maire.
Il aurait pu y avoir une autre interprétation des règles européennes et je conteste l'analyse technique qui a été faite de ce dossier par la Commission européenne. Mais je crois aussi qu'il faut se tourner vers l'avenir et refonder les règles de la concurrence européenne. Et nous allons faire, avec mon homologue allemand Peter Altmaier, un certain nombre de propositions dans les semaines qui viennent pour refonder les règles de la concurrence et nous permettre d'avoir une politique industrielle beaucoup plus ambitieuse par rapport à nos grands concurrents américains ou chinois.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, les ministres français et allemands étaient d'accord sur ce point. L'Europe n'a pas une politique industrielle assez forte, Laurent Varlouzet?
Oui, mais ça, c'est vraiment une très grosse nouveauté. Vous avez raison, là, au-delà de la convergence franco-allemande actuelle sur le plan de l'union économique et monétaire, avec cette nouveauté que Berlin accepte une mutualisation des dettes, il y avait donc ce tournant, effectivement, en février 2019. Pour la première fois, les Allemands, le gouvernement allemand, enfin en tout cas le ministre de l'économie Peter Altmaier, s'est rapproché d'une vision française d'une politique industrielle européenne, alors pas une politique colbertiste à la française avec des champions nationaux, mais au moins une volonté d'assouplir les règles de la politique de la concurrence européenne, qui, vous le savez, sont très largement d'origine allemande, pas uniquement, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du père d'Ursula von der Leyen, Ernst Albrecht, c'était justement chef de cabinet du commissaire allemand à la concurrence, qui a fait beaucoup pour faire émerger ces règles sur le modèle allemand. Et donc pendant longtemps, les Allemands étaient vraiment en opposition frontale avec les Français, même lorsqu'on parlait par exemple du couple Kohl-Mitterrand, Kohl-Mitterrand se sont mis d'accord sur l'union économique et monétaire, mais pas sur la politique industrielle. Les Allemands refusaient toujours cette vision française qui consistait à considérer que la politique de la concurrence était secondaire. Et là, ils acceptent la position française qui est de dire que la politique de la concurrence doit être appliquée pour garantir une égalité des conditions, mais en même temps il ne faut pas être naïf envers l'extérieur et donc il faut mieux tenir compte de la concurrence mondiale dans l'examen des aides d'État attribuées en interne ou des fusions. Donc là par exemple, rapidement sur Alstom Siemens, les Français mais aussi les Allemands disaient voilà, la Commission n'a pas assez tenu compte de la concurrence mondiale potentielle des Chinois. Et la Commission a dit oui, mais si c'est une concurrence potentielle, ça veut dire qu'elle n'est pas là, elle va pas se matérialiser à court terme, donc on peut pas en tenir compte. Donc vous voyez, il y a une question d'interprétation des règles, et là pour la première fois, les Allemands sont derrière les Français pour dire qu'il faut conserver absolument une politique de la concurrence forte, mais sur le plan externe, pas sur le plan interne, mais sur le plan externe, demander un petit peu plus de réciprocité pour l'ouverture des marchés publics, demander une certaine protection contre certains investissements directs étrangers, et puis prendre en compte une concurrence mondiale qui, elle, peut être largement subventionnée. On pense aux entreprises chinoises qui, effectivement, elles, n'ont pas à justifier des aides d'État qu'elles pourraient toucher auprès de quiconque.
Si les Allemands se sont ralliés à la position française, Anne-Laure Delatte, sur la concurrence européenne, c'est à cause de la montée en gamme des industries chinoises et notamment au rachat de firmes allemandes de haute technologie.
Oui, ça fait partie effectivement des points d'accord, la politique industrielle et le fait probablement que les Allemands comprennent aussi que ils ont besoin de l'Europe, c'est-à-dire que leurs excédents sont en fait constitués des déficits d'autres membres de la zone euro. Donc vous avez une compréhension effectivement qu'il y a une menace qui peut venir de l'extérieur et qu'il faut mettre en place une politique de la concurrence qui puisse faire face à ce nouveau type de menace, et aussi une compréhension que finalement, l'industrie allemande, elle a aussi très bien fonctionné parce qu'elle était capable de vendre ses produits aux Italiens et à l'Espagne. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de ça. Après, un autre point, de rapprochement entre les Français et les Allemands, c'est peut-être que les Allemands ont compris que l'Europe des règles ne fonctionnait pas. Et vous savez, on a l'habitude d'opposer l'ordolibéralisme allemand à l'esprit plus discrétionnaire des Français, c'est-à-dire qui est moins basé sur une règle que sur des politiques qui s'ajustent à la situation. Et là, il est possible aussi qu'on soit en train d'observer une Allemagne qui concède à la France que l'Europe des règles, c'est-à-dire juste des règles budgétaires, ça ne fonctionne pas et qu'il faut mettre ensemble, en commun, d'autres types de politiques. Donc une politique industrielle, en tout cas la coordonner, peut-être des politiques sociales avec le programme de chômage qui a été mis en place, enfin de chômage partiel qui a été annoncé par la Commission européenne. Enfin, voilà, on commence à aller vers quelque chose qui est moins encadré par des règles et plus vers des politiques communes.
Mais alors ça, c'est très intéressant, Anne-Laure Delatte, parce que si effectivement l'Allemagne prend ses distances avec l'ordolibéralisme, c'est une petite révolution. Et là, je m'adresse à l'historien que vous êtes, Laurent Varlouzet, parce que la politique économique allemande est imprégnée d'ordolibéralisme, au moins depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, alors bon, avec des nuances, hein, c'est toujours un peu compliqué d'appliquer, vous le savez bien, hein, des écoles économiques à des décisions gouvernementales. C'est comme bon, le keynésianisme ou d'autres écoles, d'autant qu'il y a plusieurs, il y a des nuances parmi les ordolibéraux. Mais en tout cas, l'idée générale est la bonne, hein, celle qu'a mentionnée Anne-Laure Delatte autour de cette Europe des règles. Alors là, justement, l'enjeu clair, concret, c'est sur ce nouveau plan de relance de la Commission, quelles seront les règles, justement, quelles seront concrètement la conditionnalité, puisque vous savez, là, je pense que la négociation va tourner autour de ça. Les Italiens, justement, étaient assez réticents pour utiliser le mécanisme européen de stabilité qui avait été inventé pendant la dernière crise, parce qu'il imposait une conditionnalité très forte, hein, c'est-à-dire que vous aviez la fameuse Troïka qui venait chez vous pour tenir la main de votre stylo lorsque vous preniez une décision de politique économique. Bon, là, a priori, la conditionnalité dans le plan proposé par la Commission serait peut-être un petit peu moins forte. Ben, en tout cas, les États membres, hein, joueraient un rôle plus important. Donc, on retrouve ce côté discrétionnaire dont parlait Anne-Laure Delatte. Et en plus, la conditionnalité, là, s'inscrit aussi dans les priorités de la Commission, y compris le Green Deal, donc une politique environnementale, ce qui fait que c'est pas uniquement une vision purement comptable.
On va revenir sur cette question de la conditionnalité et sur la place que prend cette solidarité budgétaire dans l'histoire de la construction européenne. Est-ce que elle est une première étape vers une Europe plus politique? On va en parler dans un instant, mais d'abord c'est le retour de Kraftwerk, Europe Endless sur France Culture. Europe Endless de Kraftwerk sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, notre discussion sur la relance européenne se poursuit en compagnie de l'économiste Anne-Laure Delatte et de l'historien Laurent Varlouzet. Avant de voir si l'Europe prend le chemin d'une union plus politique, revenons un peu en arrière dans l'histoire. Quels sont les plans de sauvetage qui ont précédé le projet de la Commission européenne, Laurent Varlouzet ?
Oui, alors il n'y en a pas vraiment, ou alors soit ils étaient d'intensité plus faible, soit il faut vraiment remonter à des plans qui sont très différents. On pourrait penser au plan Marshall, hein, de financement américain. Pourquoi je parle du plan Marshall ? Parce qu'en fait, il est à l'origine de la construction européenne, puisque les Américains ont prêté de l'argent aux Européens, mais de manière multilatérale, en mettant comme condition la création d'une organisation européenne, hein, qui est l'OECE, qui est l'ancêtre de l'actuelle OCDE. Donc l'Union européenne n'en est pas issue.
Les Américains ont prêté aux Européens.
Oui, c'est ça. Et ils ont prêté. Il y a eu aussi des dons, hein, avec le plan Marshall. Mais les Américains ont demandé en contrepartie une espèce de, pas une unité des Européens, mais disons la constitution d'un club. Hein, et c'était l'organisation l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique, qui était basée à Paris. Et donc c'est la première fois que les Européens ont été forcés de se mettre ensemble dans une institution commune, y compris avec des représentants allemands. Alors au départ, c'était même des zones d'occupation. Et donc voilà, on peut dire que finalement l'Europe des transferts financiers était présente dès l'origine. Mais en fait, bon, évidemment, c'était quelque chose de ponctuel qui était lié à la reconstruction de l'Europe. Après, l'Europe, c'était essentiellement un marché régulé, un marché encadré. C'était pas un marché de concurrence de la jungle, hein. C'était quand même une concurrence régulée. Mais il y avait peu de transferts, sauf sur le plan sectoriel avec la PAC, et sauf à partir de 75 quand la politique régionale a été créée, à la demande des Italiens et des Britanniques pour aider les régions les plus pauvres. Et donc là, c'est le premier instrument, disons, de transfert budgétaire envers les plus pauvres.
Mais sur le temps long.
Voilà, qui émerge 75. Au départ, c'est des petits budgets, et puis ça se renforce dans les années 80, notamment lorsque l'Espagne, le Portugal rentrent dans la communauté, la Grèce, et puis ça se renforce aussi dans les années ensuite 90-2000, là, pour financer les pays de l'ancien bloc de l'Est. Et on estime que pour des pays comme la Pologne, ça a pu représenter jusqu'à 1 000 euros par habitant, le cumul des différents programmes, donc c'est absolument pas négligeable. Ça équivaut à peu près, alors il y a différentes estimations, avec les flux d'investissement privés.
Mais quelle différence entre ces subventions régionales, justement, Laurent Varlouzet, et le plan que propose aujourd'hui la Commission européenne ?
Alors, ce qui est différent, c'est que cette politique régionale, qu'on appelle aujourd'hui la politique de cohésion, c'est plus une politique structurelle de long terme qui vise, sur des programmes pluriannuels, à augmenter progressivement le niveau de vie des plus pauvres pour qu'ils rejoignent la moyenne communautaire. Ça a fonctionné dans certains pays, l'Espagne, l'Irlande, ça fonctionne moins bien pour d'autres. Ça commence à fonctionner pour des pays de l'ancien bloc de l'Est. Là, on est plutôt dans le cadre d'un instrument d'urgence, type aide du FMI, lorsqu'il y a une maison de crise argentine, aide du FMI. Bon. Donc cette politique régionale créée en 1975, elle vise à aider les régions les plus pauvres. Donc c'est une politique qui a été créée à la demande de l'Italie, pour l'Italie du Sud et puis de la Grande-Bretagne. Au départ, des montants assez faibles, et puis ça se renforce dans les années 80 avec l'élargissement vers l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et les années 90 surtout, où là il s'agit de financer la modernisation des économies de l'ancien bloc de l'Est. Et donc là, on a des sommes assez considérables qui ont été transférées vers les régions et donc les pays les plus pauvres, avec certains succès éclatants, l'Irlande, l'Espagne, certains pays de l'Est également, dont le niveau de vie converge avec celui de la moyenne européenne. Alors pas uniquement du fait de cette politique de cohésion, mais ça a quand même joué un rôle non négligeable. On estime que pour la Pologne, c'était à peu près 1 000 euros par habitant, par exemple, l'ensemble des années 2000.
La politique de cohésion, effectivement, est un bon exemple de solidarité européenne. Et en même temps, cette solidarité, comme vous le disiez tout à l'heure, Laurent Varlouzet, a été mise à l'épreuve lors de la crise grecque. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Jacques Delors, président de la Commission européenne entre 1985 et 1995.
Je m'inquiète et j'ai des regrets, notamment que lorsqu'ils ont mis l'euro en pratique, leur décision de 1997, ils aient refusé mon idée selon laquelle, à côté du pacte de stabilité budgétaire, il y aurait eu un pacte de coordination des politiques économiques. Le pacte de coordination des politiques économiques, auquel ils reviennent maintenant, sous une forme ou sous une autre, mais un peu tard. Le problème qui a été posé à partir de la difficulté des Grecs a été simple. Est-ce que on applique le no bailout, c'était dans le traité, il n'y a pas de secours systématique des autres pays quand un pays est en difficulté, ou bien est-ce que le Conseil de l'euro considère qu'il est moralement responsable de ne pas avoir vu la dégradation de la situation dans plusieurs pays, et qu'étant moralement responsable, il prend des décisions politiques pour prendre en charge le problème? Et c'est la thèse que j'ai défendue, notamment auprès des Allemands, en leur disant « Mais nous sommes collectivement responsables. On ne peut pas simplement désigner le vilain canard grec. »
Jacques Delors, le 12 septembre 2011. Que vous inspirent ces propos, Anne-Laure Delatte ?
Non, mais écoutez, c'est intéressant. D'abord, ça vient quand même de Jacques Delors, qui est à l'initiative de l'Union monétaire, à la fin des années 80. C'est quand même lui qui va réunir ce groupe constitué notamment des banquiers centraux de certains pays membres et qui va les rassurer en leur disant... Lui, il est convaincu que l'union monétaire, c'est-à-dire partager la même monnaie, c'est une étape nécessaire vers l'union politique. Donc il fait partie de ces fondateurs, disons en tout cas de ces penseurs du projet européen qui pensent que de toute façon, la fin, c'est l'union politique. Et qu'il y a des étapes entre-temps qui sont relativement instrumentales, et notamment l'union monétaire, lui, c'est vraiment un constructeur de cette intégration-là. Donc dans les années 80, il réunit des banquiers centraux, il les rassure, justement en les mettant ensemble, en les faisant discuter de qu'est-ce qui pourrait mettre à mal la stabilité monétaire si jamais on mettait ensemble cette monnaie. Et il arrive c'est vraiment avec lui qu'on va avoir le traité de Maastricht et la mise en commun de la monnaie. Bon, maintenant, à ce moment-là, dans les début des années 90, Kohl, Helmut Kohl, le chancelier allemand, dit « De toute façon, on n'arrivera pas à faire une monnaie sans union politique ». En réalité, Si vous voulez, on ne peut pas partager une monnaie commune et donc avoir une politique monétaire commune sans avoir un minimum de coordination budgétaire. Et là, j'utilise à dessein budgétaire et politique de la même façon, dans le sens où derrière du budgétaire, en fait, il y a du politique, il y a vraiment une idée de souveraineté de l'État. Comment est-ce que vous dépensez votre budget, comment est-ce que vous le levez et comment est-ce que vous le dépensez, c'est vraiment au cœur d'un contrat social.
Mais ce budget européen, il existe déjà ?
Mais il existe à peine. C'est-à-dire qu'il est tout petit et en plus, on ne lève pas d'impôts.
C'est 1% du PIB de l'Union européenne ?
Oui, c'est 1,13% du PIB de l'Union européenne. Donc autant vous dire que c'est un tout petit budget, hein, qui ne peut absolument pas fonder une politique économique au sens comme on l'entend au niveau national, premièrement. Et en plus, ça n'est pas fait avec des ressources propres. Et donc juste pour conclure, on est conscient dans les années 90 qu'on n'arrivera pas à faire de la monnaie sans une coordination budgétaire, mais on n'y arrive pas. Pour des raisons politiques, les Français n'en veulent pas. Hein, ce n'est pas les Allemands dans les années 90. Les Français n'en veulent pas. Et donc, juste quand Delors dit il y a une question morale de solidarité, en réalité, il y a même un mécanisme économique qui fait que vous ne pouvez pas partager une politique monétaire sans une coordination budgétaire. Ça ne fonctionne pas. À partir du moment où vous adoptez une politique monétaire commune, il faut mettre en place des transferts qui vont vous permettre d'absorber des chocs que la politique monétaire ne peut pas absorber.
Il y a un consensus scientifique parmi les économistes sur ce point ?
Oui, c'est la théorie des zones monétaires optimales. Donc ça date quand même de 1961 avec Mendel et ensuite l'union budgétaire et les transferts politiques, c'est Kennan en 69. Donc il y a un consensus scientifique, disons, mais comme d'habitude, il est difficile de faire parfois le lien entre le consensus scientifique, économique et ce qu'on applique dans la politique. Ouais.
Laurent Barlouzet.
Oui, alors plusieurs choses, mais rapidement. Bon, d'abord Mendel, ce qui était intéressant, c'est que dans son papier, il parlait de la CEE à l'époque et il disait que c'était pas forcément une zone monétaire optimale, mais il disait que les États-Unis non plus. Hein, donc il n'y avait pas de jugement. Enfin, Mendel n'est pas quelqu'un qui a eu un jugement toujours extrêmement négatif sur l'euro. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que il y a deux choses en fait. Il y a ce décalage. En termes de théorie économique, disons, dans l'union économique et monétaire, on a une union monétaire fédérale, une union économique intergouvernementale. Bon, donc quand il y a une crise, il peut pas y avoir de dévaluation externe, donc il y a une dévaluation interne, voilà, c'est ce qui est connu malheureusement la Grèce, baisse de salaire, baisse des prestations sociales, et donc c'est tout à fait catastrophique. La solution, c'est donc de créer des transferts. Mais il y a ce problème d'aléa moral que j'ai évoqué précédemment. Alors, sur le plan politique, ça avait déjà été... pas anticipé, mais disons que ce problème économique avait déjà été identifié dans les années 80. Anne Nordelat a évoqué le comité de l'or, qui avait défini en fait ce qu'allait être la future union économique et monétaire. Et dans les rapports, dans les débats du comité de l'or auxquels on a accès, c'était en 88-89, il y avait eu un projet de créer un fonds monétaire européen, alors sous différents noms, pour justement absorber des chocs éventuels d'un des pays membres de l'Union monétaire, et ça avait été refusé, notamment par les Allemands. Mais bon, là, je suis d'accord avec Anne Nordelat, il y a aussi un peu une ambiguïté des Français, en fait, hein, qui aiment bien, des fois, rejeter sur les Allemands certaines de leurs réticences. Donc, du coup, la référence à Delors est tout à fait pertinente, parce qu'on se retrouve là, avec ce plan de relance de la Commission, à essayer de combler des manques, finalement, du traité de Maastricht de 92, qui a créé l'Union économique et monétaire, de manière... imparfaite, parce que c'était un premier compromis et que tout n'avait pas été anticipé.
Mais ce cheminement vers une Europe plus politique, est-ce qu'il doit passer par la Commission européenne ? Est-ce que ça ne soulève pas une nouvelle fois la question de la légitimité des institutions européennes, justement, Laurent Barlouzet ?
Alors là, oui, ça c'est Anne Nordelat, t'as pas mal écrit là-dessus aussi, mais plus que moi. Mais là, ce que je peux dire sur ça, c'est que c'est pas parce qu'on a une union de transfert sur plusieurs centaines de milliards qu'on va nécessairement aboutir aux États-Unis d'Europe. Il ne faut pas non plus avoir une perspective téléologique. Ça peut être simplement, comme ça a déjà été évoqué, une manière de réparer les failles de l'existant. Donc, encore une fois, des lacunes de l'union économique et monétaire telle qu'elle a été pensée à Maastricht. Là, sur le plan politique, le plan de relance de la Commission, s'il est appliqué, c'est plutôt un progrès, puisqu'encore une fois, la conditionnalité, c'est-à-dire l'approbation des prêts et des aides, devrait être décidée par la Commission et par les États membres, et plus simplement par la Troïka, c'est-à-dire la Commission, la BCE et le FMI, comme dans le cas de la crise de la zone euro.
Donc ce serait un processus plus démocratique, Anne-Laure Delatte ?
Alors oui et non. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement optimiste, effectivement, sur cette proposition. Et si elle est acceptée, si on arrive à un consensus, ce sera une vraie avancée. Maintenant, comme d'habitude, en Europe, et on a peut-être une dérive qui est liée à la suprématie des économistes, on fait l'économie du débat politique et démocratique, de ce que fonde la démocratie européenne. Et en effet, ce que vous êtes en train de voir là, dit de façon très simple, c'est une Commission européenne qui a réussi à faire l'intermédiaire entre les gouvernements, qui va amener une proposition et supporter la proposition franco-allemande, qui va essayer d'obtenir un consensus, mais au final, si on arrive à ce plan-là, la décision sera prise au final par l'intergouvernemental, c'est-à-dire par une négociation entre gouvernements. Et donc là, on fait l'économie de comment est-ce qu'on fonde un processus de décision légitime et démocratique. Premièrement, on a une vraie contrainte, c'est que tout ce qui est de l'ordre du fiscal requiert la règle de l'unanimité. Donc vous rendez compte que ça va rendre les négociations et les discussions extrêmement compliquées. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas avancer sur la fiscalité en Europe. Et au-delà de ça, là, ce qui illustre le cas actuel, c'est que finalement, on a réussi à avancer parce qu'on a eu ce basculement de l'Allemagne du côté des frugaux vers la France. Finalement, hein, c'est vraiment ça qui a fait qu'on va vers une Europe des transferts. Mais donc, vous voyez bien que c'est le fruit d'une articulation politique qui est quand même basée sur des événements assez exceptionnels. Vous n'avez pas un processus de discussion, d'élaboration, de délibération, comme on peut avoir dans un parlement, dans une démocratie où vous êtes plus équilibré. Donc voilà, je dirais que le processus politique, on ne l'a pas encore du tout discuté. Finalement, la Commission européenne fait l'intermédiaire et on reste sur de l'intergouvernemental qui peut être soumis à des événements du type Karlsruhe ou pas, des élections qui peuvent être très tendues, des événements nationaux qui peuvent complètement emporter le destin de l'Europe, alors qu'on a besoin d'autre chose, on a besoin d'une représentation des diversités en Europe.
Ce plan de la Commission, en effet, doit être approuvé par les États membres à l'unanimité. Et on l'a dit, les pays dits frugaux, donc les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark, sont opposés à une mutualisation des dettes. J'aimerais que l'on écoute le Premier ministre autrichien, Sébastien Kurz.
Notre objectif est de donner la meilleure impulsion possible à l'économie européenne et aussi de limiter toutes les réglementations afin que l'Europe, en tant que site économique, puisse tirer son épingle du jeu face à la concurrence internationale. Bien sûr, nous voulons faire preuve de solidarité et nous voulons soutenir des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France qui ont été durement touchés par la crise. Mais notre approche consiste à aider avec des prêts et non par une communautarisation des dettes.
Le Premier ministre autrichien Sébastien Kurz, le 20 mai dernier. Ça va être particulièrement difficile de convaincre les pays dits frugaux, Anne-Laure Delatte. Quels sont les arguments qui pourraient les convaincre ?
Alors, d'abord, vous voyez que ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, il y a des agendas électoraux dans ces pays qui font que, étant face à une opposition d'extrême droite qui est anti-européenne, certains dirigeants peuvent avoir tendance, alors ça c'est vraiment plutôt aux Pays-Bas, le dirigeant va avoir tendance à, si vous voulez, à montrer à ses électeurs que non, il n'est pas prêt à tout donner aux Italiens. Parce qu'il y a un vrai débat anti-européen et que ses concurrents critiquent l'Europe. Donc vous voyez, on est vraiment soumis à un agenda électoral national.
Sur les arguments en faveur du plan de relance de la Commission, peut-être le fait que les frugaux ont besoin, comme on le disait, de la bonne santé économique des pays du Sud peut jouer en faveur du plan de la Commission.
Effectivement, vous avez raison. Le premier point, c'est que les excédents des uns sont liés au déficit des autres. Donc, vous avez besoin de pays qui consomment pour pouvoir vendre vos produits. Donc ça, les pays du Nord en sont conscients. Je dirais aussi que, finalement, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. En particulier, la Commission européenne va être capable d'emprunter à des taux proches de zéro pour des emprunts peut-être sur plus de 30 ans. Et donc finalement, ça va avoir un coût extrêmement bas. C'est-à-dire que En réalité, s'il refuse cette proposition, ce sera vraiment plus sur un principe philosophique que pour le coût que ça va représenter. Donc moi, je dirais que l'argument principal, il va probablement venir de l'Allemagne, qui est donc passée du côté plutôt français, et qui va leur opposer l'idée que voilà, un emprunt sur 30 ans à 27, ça va coûter très peu cher en réalité.
Surtout que l'Allemagne prend la présidence tournante de l'Union européenne le 1er juillet. Laurent Warlouzet, elle va jouer un rôle essentiel dans le fait de convaincre ces pays qui sont opposés au plan de relance de la Commission.
Oui, tout à fait, parce que les rapports de force ont évolué. Donc c'est vrai que sur un plan pessimiste, on a toujours cette opposition des pays créanciers envers les pays débiteurs. Il ne faut pas sous-estimer aussi beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale qui, pendant la crise de l'euro, étaient assez réticents à aider les Grecs, toujours pour cette question d'aléa morale. Donc bon, on a toujours cette opposition de fond qui persiste, même si là, effectivement, l'Allemagne a changé de camp. Alors les éléments plus optimistes en faveur d'un accord, c'est bon le fait que l'Allemagne ait changé de camp, hein, c'est vraiment fondamental. L'absence de la Grande-Bretagne aussi, ça facilite quand même un petit peu les discussions. Et puis le fait aussi que la Commission ait présenté son propre plan, parce que je crois que les réactions, notamment autrichiennes, étaient assez négatives envers le plan franco-allemand, parce que tous ces pays-là n'ont pas envie d'être considérés comme des petits toutous à la remorque des Français et des Allemands. Donc il y a peut-être une réaction un petit peu instinctive, hostile. Bon, quand la Commission ensuite communautarise la position, là je crois que les réactions ont été plutôt négatives, mais déjà plus modérées, aussi bien en Autriche, parce que les Autrichiens sont en coalition quand même, Sébastien Kurz, avec les Verts pro-européens aussi, donc ça il faut en tenir compte.
Donc ce sera peut-être les Néerlandais, à travers la personne de Mark Rutte, le Premier ministre, qui seront les plus difficiles à convaincre.
Peut-être. Après, comme le disait Anne-Laure Delatte, il y a des équilibres internes à chaque pays. Je crois que Mark Rutte est aussi en coalition avec différents partis, dont des partis pro-européens, enfin en tout cas plus pro-européens que lui. Donc ça, ce sont des questions d'équilibre interne. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une pression externe, le fait que l'Allemagne soit maintenant favorable à une union de transfert, dans une certaine mesure. Ainsi que la Commission, ça pèse très fortement.
Et puis Anne-Laure Delatte le disait, cela ne devrait pas coûter très cher, et cela coûtera d'autant moins cher si l'Union européenne parvient à trouver de nouvelles ressources propres. Qu'est-ce qui est aujourd'hui mis sur la table, Anne-Laure Delatte ?
Oui, alors ça, effectivement, c'est un élément vraiment important, et c'est très nouveau, c'est-à-dire que jusqu'ici, on avait très peu de ressources propres, en fait. On parle d'un peu de ressources basées sur la TVA. Or là, si vous voulez mettre une politique budgétaire en place, ça veut dire que vous allez mettre des dépenses ensemble en place, mais vous allez aussi avoir besoin de ressources, comme un État. Et donc, effectivement, moi, j'ai été très agréablement surprise par le fait que dans cette proposition, on parlait de taxes communes, d'impôts communs au niveau européen. Donc la ressource propre, ce serait basé sur des impôts. Alors, on parle d'une taxe... Pour l'instant, c'est encore très flou. Hein. Donc, je vais vous dire juste, moi, les projets que j'ai lus. Taxe sur le plastique, alors qui a été très critiquée. On aura du mal à trouver un consensus là-dessus. Une réforme de la taxe carbone. Une taxe aux importations de produits intensifs en carbone, donc ce qu'on appelle une taxe aux frontières. Un impôt sur le profit des multinationales qui ont bénéficié du marché unique. Donc, un impôt sur les multinationales. Et alors là... On est encore dans le flou. J'ai l'impression qu'en France, on a tendance à du coup faire le lien très rapidement entre ce projet de taxe et la taxe GAFA du gouvernement Macron. Mais je ne suis pas sûre que ça ne concerne que le digital. Mais encore une fois, là pour l'instant, les projets sont encore assez flous. Et vous imaginez bien qu'on est au cœur d'un contrat social. Donc là, c'est vraiment compliqué. Des discussions, des tensions, une économie politique pour savoir quel type d'impôt on peut lever qui heurte le moins d'intérêt possible.
Ce sont des projets qui risquent de susciter des discussions particulièrement houleuses, Laurent Warlouzet, notamment pendant le sommet européen des 18 et 19 juin prochains.
Oui, de toute façon, Ursula von der Leyen a dit que c'était une des hypothèses envisagées, hein, l'augmentation des ressources propres. Il y en a d'autres, hein, comme l'augmentation des contributions nationales. C'est très compliqué, comme l'a dit Anne-Laure Delatte, l'unanimité est de règle. Donc, il y aura peut-être déjà une discussion sur le principe des emprunts, sur la conditionnalité, et ensuite une autre discussion en parallèle ou peut-être de manière en décalé peut-être sur les modalités de financement, parce que là c'est vrai que ça multiplie les possibilités de veto.
En février dernier déjà, les 27 s'étaient opposés sur le budget pluriannuel de l'Union européenne, qui était le premier depuis le Brexit. C'est un moment où on a vu se dessiner des clivages que l'on retrouve aujourd'hui, Anne-Laure Delatte.
Oui, tout à fait. Alors en plus, c'est vrai qu'il est difficile de séparer les deux moments. D'un côté, si vous voulez, cette Europe des transferts, cette proposition d'un fonds de récupération de la crise, il est vraiment ancré dans la crise Covid. On a tendance à le séparer du moment négociation du budget commun, effectivement, de février. Et en même temps, comme il est basé sur le budget européen, effectivement, on devrait voir des tensions qu'on voyait avant ressurgir. Et oui, vous allez avoir des discussions avec la Hongrie et la Pologne qui vont probablement mettre en face, par exemple, des exigences sur le respect du droit qu'on exige, nous, membres de l'UE, envers ses membres. Enfin bon, pour être un peu clair, on va voir ressurgir des tensions, des discussions qui avaient lieu avant la crise. Mais tout ça mélangé avec un contexte de crise, ça devrait donner quelque chose un peu plus nouveau.
En effet, il y a les pays frugaux, au mois de février, voulaient imposer un budget européen qui serait bloqué à 1% du PIB européen, là où d'autres pays dans le sud de l'Europe voulaient augmenter ce budget européen. Et puis il y avait aussi la question des rabais. Est-ce que ça ne va pas être compliqué, Laurent Varlouzet, de mêler à la fois les discussions de l'avant-crise et les discussions de l'après-crise?
Oui, c'est vrai. Bon, moi, j'ai pas la solution au problème, mais je me rappelle que dans la proposition franco-allemande là du 18 mai, il était bien précisé que l'idée, c'était de créer un fonds de relance intégré à ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, donc le budget de l'Union européenne, mais aussi un fonds de relance qui serait temporaire et ciblé. Hein. C'était les deux expressions qui figuraient dans le texte, temporaire et ciblé. Et les Français, très souvent, là, dans l'histoire, ont souvent préconisé la création d'institutions parallèles à l'Union européenne, mais pas forcément intégrées dans les structures communautaires, hein, parce qu'il y a toujours un discours un petit peu ambigu en France, où on est pour l'Europe, mais une Europe quand même qui ne contredirait pas le gouvernement français. Et donc, on peut très bien imaginer que, finalement, ce fonds de relance soit établi à côté du budget européen, même si c'est pas du tout ce qui est prévu aujourd'hui, si d'aventure les négociations étaient bloquées, sachant qu'effectivement on a cette opposition entre créanciers et débiteurs, mais même parmi les États qui bénéficiaient du budget européen, à nord de l'Atlacité, vous avez la Pologne et la Hongrie qui sont maintenant plus eurosceptiques, donc qui sont prêts à envisager à la limite également une diminution du budget ou une stabilisation du budget. Donc là aussi, c'est vrai que le Brexit a obligé beaucoup de pays qui étaient hostiles à un élargissement du budget européen à avancer leur pion au grand jour.
On l'a dit, un certain nombre de réponses devraient intervenir lors du sommet européen des 18 et 19 juin prochains. Berlin a estimé il y a quelques jours qu'un accord sur le budget européen était difficile mais possible avant l'été. Anne-Laure Delatte, Laurent Varlouzet, vous partagez ce point de vue? Anne-Laure Delatte.
Bon, moi il me semble que mi-juin, on va obtenir des premiers éléments de discussion, mais on n'aura pas d'accord. Je serais quand même extrêmement surprise. Voilà, il y aura encore des discussions en juillet, mais on verra. Je pense que ce qu'il faut attendre de juin, c'est la réaction des frugaux. C'est vraiment voir si on a un blocage total ou s'ils sont prêts à négocier. On n'aura pas un accord final, mais on aura les nuances de leur position.
Laurent Varlouzet.
Oui, également, c'est toujours des négociations fastidieuses, des négociations budgétaires. Déjà, les précédentes avaient été difficiles et c'était déjà traduite pour la première fois par une légère baisse en proportion du budget européen à l'instigation des Britanniques, mais pas seulement. Et donc, on se retrouve avec la même configuration aggravée par la crise de la pandémie. Donc, c'est difficile de prévoir la date d'un accord, mais bon, de toute façon, il faudra se décider à la fois sur ce plan de relance et sur le budget, je dirais, plus classique.
Et si le plan de relance proposé par la Commission européenne était accepté, ce serait une étape essentielle vers une Europe plus politique, Anne-Laure Delatte ?
Oui, vraiment sans ambiguïté. Je crois qu'on pourrait marquer cet accord d'une pierre blanche. Alors voilà, les premiers euros seront dépensés en 2021. On espère qu'il y aura plus les effets de la pandémie directe, mais effectivement, oui, on pourra marquer cet accord d'une pierre blanche vers une union politique qui, à mon sens, n'est pas tout à fait équilibrée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais à partir du moment où on a des transferts budgétaires, où on a des décisions à prendre sur comment on lève des ressources fiscales et comment on les dépense, on rentre vraiment dans le cœur d'un contrat social européen.
Ce serait une étape historique pour l'Union européenne, pour vous aussi, Laurent Varlouzet ?
Oui, tout à fait. Alors, union politique, ça ne veut pas dire qu'on va se transformer en États-Unis d'Europe et que les États vont disparaître. Ça veut dire simplement que on aurait, si le plan est accepté et si la crise ne fait pas disparaître, ne crée pas des perturbations très fortes qui amèneraient à une disparition de la zone euro. Si donc on a une hypothèse de renforcement de l'union économique et monétaire qui est maintenue, effectivement, ça transformerait pas l'Europe d'une absence d'Europe politique vers une réalité totale d'Europe politique, mais ce serait dans un continuum, ce serait un renforcement de la dimension de solidarité et donc effectivement qui est au cœur, comme l'a rappelé Anne Nordelat, du contrat social. Même si, bon, je le rappelle, il y avait quand même déjà la politique régionale, la politique de cohésion, il y a déjà eu des transferts, mais pour des raisons différentes. C'est plutôt des transferts liés à des politiques au long cours de convergence. Là, ce serait plutôt des transferts massifs liés à une crise sociale très grave, humanitaire très grave. Et donc ça renforcerait effectivement cet aspect politique de solidarité, sans, encore une fois, en transformer l'Union en États-Unis d'Europe.
Cut Me, extrait du dernier album de Moses Sumney. Merci beaucoup Laurent Varlouzet et Anne-Laure Delatte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown, Léa Sabourin et Thibaut Affringue. À la réalisation aujourd'hui, Jean-Christophe Francis, à la technique, Anthony Thomasson. Demain, l'État doit-il prendre le contrôle de la relance? On en parlera avec Jean-Marc Daniel et Philippe Martin. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange.
Stiffness inside my neck and banging my head against the desk. Well, if there's no pain, is there any progress? That's when I feel the most.
What gets me? get me, get me. Thank you.